Bonjour.
Bonjour.
Nous espérons que vous allez bien et nous sommes très heureux de vous accueillir encore pour cette session.
Troisième étape de la pyramide.
Troisième étape.
Les enfants.
Donc, nous avons vu qu'avoir une relation intime avec Dieu est la priorité numéro un, c'est la source de toute vie. C'est de là que coule toute la bénédiction qui tombe ensuite sur tous les étages qui sont inférieurs. Inférieurs dans le sens venant en dessous, mais pas inférieurs en besoin de
qualité. Géographiquement inférieurs.
Voilà. Ensuite, il y a donc cette nécessité d'investir beaucoup dans notre relation avec notre conjoint, parce que si nous ne le faisons pas, eh bien, nous allons manquer de quelque chose qui est vital pour nous. Maintenant, viennent les enfants. Nous ne savons pas si vous en avez, mais si vous avez eu cette bénédiction d'avoir la joie d'en accueillir ou que vous en avez adopté, eh bien, le Seigneur a un plan, un projet bien spécifique par rapport à notre implication dans leur vie. Si nous lisons Deutéronome, le chapitre 11, les versets 18 et 19, voici ce que nous trouvons. « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. »
Nous avons eu la joie d'avoir cinq garçons.
Oui.
Et ça a été quelque chose de très important pour nous, que d'intégrer Dieu, notre foi, tout au long de la journée, en fait. Pas seulement quand on va à l'église, pas seulement quand on est en public ou avec d'autres chrétiens, mais que vraiment chaque événement de votre vie soit l'occasion de parler de Dieu. Quand nous étions missionnaires en Asie du Sud-Est, il nous arrivait de rentrer en France et quelquefois, certaines églises, des groupes de femmes nous ont offert une journée dans des parcs d'attractions. Pour ne pas donner de nom, dans des parcs d'attractions, et c'était vraiment des moments super, les enfants étaient très heureux. Puis on a toujours, par exemple, juste pour vous donner un exemple, avant de démarrer la journée d'amusement, fait remarquer aux enfants que si on pouvait bénéficier d'une journée aussi super, c'était parce qu'on servait un Dieu qui était grand,
ouais.
Et qu'il nous aimait, et qu'on voulait prendre du temps pour lui dire merci. Donc dans les moments de joie, comme dans les moments difficiles, si vous traversez une épreuve avec une maladie ou des soucis financiers ou des soucis au niveau du travail, eh bien plutôt que de vous écrouler sous le poids du fardeau sans en parler aux enfants, bien qu'ils le voient quand même, prenez du temps avec eux, posez-vous, expliquez-leur, on traverse une situation difficile.
Et priez ensemble.
On va demander au Seigneur de nous aider. Et regardez comment ils vont observer et voir combien Dieu est grand et fidèle. Et petit à petit, comme ça, vous instillez Dieu dans leur cœur.
Et si Dieu répond, eh bien, partagez-leur la réponse qu'ils voient que Dieu répond à la prière.
Mm-hmm.
En fait, nous ne sommes pas en train de vous dire qu'il faut les matraquer à coups de versets et utiliser le nom de Dieu à tout bout de champ avec eux, parce que ce serait peut-être le risque qu'ils se mettent à vomir tout cela à un moment donné. Trop, c'est trop.
Saupoudrer.
Et simplement, soyez qui vous êtes. On ne peut pas mentir à nos enfants. On peut prétendre être quelqu'un que nous ne sommes pas à l'extérieur avec d'autres, mais nos enfants nous connaissent de l'intérieur. En fait, ils savent qui vous êtes vraiment. Et ce qu'il faut, c'est bien leur partager notre vie avec notre foi sur une base du quotidien.
Maintenant, si on reprend le verset dans Marc 10, 29 et 30, c'est le verset parallèle à celui qu'on a lu dans la précédente session de Matthieu. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père et ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple, etc. Vous connaissez la fin de l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce passage-là qui liste les enfants dans les choses à quitter?
Malheureusement, là aussi, c'est un passage souvent qui a été mal interprété. Et puis, nous avons, dans le cadre de notre service, trop souvent entendu cette phrase « Moi, je sers Dieu et mes enfants, c'est Dieu qui s'en occupe. On a fait un contrat avec Dieu à ce niveau-là. » On ne l'a pas entendu une fois, on ne l'a pas entendu 10 fois, on l'a entendu un grand nombre de fois. Et malheureusement, trop souvent aussi, pas toujours, mais trop souvent, les conséquences étaient là pour prouver que, eh bien, ce n'était pas une façon de s'occuper de ses enfants.
Parce que dans ce texte-là, le mot enfant, en fait, devrait être placé en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, en fait.
Déjà enfant, déjà adulte.
Voilà, donc tant qu'ils sont sous votre responsabilité, c'est à vous qu'appartient la charge de prendre soin d'eux, de les enseigner, etc. Quand ils sont adultes, c'est une autre histoire. Si on reprend notre pyramide, les enfants descendent au niveau de la famille étendue, évidemment. Il reste toujours vos enfants. Hein. Mes grands, je les appelle toujours mes poussins. Mais on n'a plus la même responsabilité que quand ils étaient petits.
Donc, nous ne sommes pas en train de vous dire que les responsables d'école du dimanche ou de culte des enfants n'ont pas une part dans la transmission de la foi. Ils font un travail qui est excellent.
Oui.
Mais ils ne sont pas responsables de passer le bâton de la foi à vos enfants, c'est vous et uniquement vous à qui Dieu demandera des comptes par rapport à cette transmission pendant le temps où vos enfants étaient sous votre responsabilité. Une fois qu'ils sont adultes, s'ils font des choix différents, c'est leur responsabilité. Mais tant qu'ils dépendent de vous, personne d'autre que vous n'a cette responsabilité et n'est en charge de cette transmission. S'ils vous voient vivre votre foi, eh bien, la transmission se fera sans doute naturellement. Maintenant, attention. Il y a un exemple que je voudrais vous partager. Un ami à moi d'une ancienne dénomination évangélique en France était une fois à l'enterrement d'un grand évangéliste. Et cet évangéliste avait donc une veuve et puis deux enfants. Et cet ami est venu présenter ses condoléances à la veuve. Et puis ensuite, il va vers les deux fils. Et là, à côté de la tombe de leur papa, il leur dit « Votre papa était un pasteur extraordinaire, toujours là pour les autres et toujours avec ce désir de servir Dieu, toujours cette foi, cette passion. » Et alors qu'il expliquait tout ce que ce pasteur avait été pour lui, l'un des fils l'interrompt. Il dit « Monsieur, si notre père a été un homme exceptionnel pour vous, il n'a pas été un père pour nous. Au revoir. »
Aïe.
Vous voyez, on peut gagner le monde, mais si ceux que Dieu nous a confiés en ont souffert, si on a placé Dieu en compétition avec la présence du papa à la maison, eh bien les conséquences peuvent être dramatiques. Et j'oserais paraphraser, à quoi sert-il de gagner le monde si on perd, peut-être pas notre âme, mais ceux que Dieu nous avait confiés les plus proches. Notre famille est notre première église. C'est celle qui dépend de nous. Le meilleur d'entre nous peut être remplacé à n'importe quel endroit. Comme un ancien Premier ministre de l'Angleterre a dit, Winston Churchill, les cimetières sont pleins de gens qui étaient indispensables et le monde ne s'est pas arrêté de tourner pour autant. Par contre, à la maison, vous n'êtes pas remplaçable. Vos enfants ont besoin d'un papa et ont besoin d'une maman qui prenne soin d'eux. Et il y a un autre exemple que je voudrais vous partager, mais qui, lui, est un très bon exemple. Vous avez peut-être entendu parler du docteur Dobson qui a créé Focus sur la famille. Et son papa était un évangéliste dans une dénomination. Et Dr. Dobson a donné son cœur à Jésus quand il avait peut-être 6-7 ans. Et puis, en grandissant, à un moment donné, il a commencé à s'éloigner petit à petit en étant adolescent du chemin de la foi. Son papa était un évangéliste, ce qui veut dire qu'il faisait des croisades d'évangélisation presque tous les jours, ou tout du moins très régulièrement, et il était peu à la maison. Et à un moment donné, eh bien, alors qu'il s'apprêtait à faire une croisade, il reçoit un coup de téléphone de sa femme, il était dans une autre ville, et elle lui dit, « Écoute, il faut que tu reviennes à la maison, parce que ton fils ne va pas bien, il a besoin de toi. » Et cet homme, le jour même ou le lendemain, je ne sais plus, a appelé son quartier général, a dit « j'arrête, redonnez-moi une église là où j'habite, j'arrête et je rentre vers ma famille parce que mon enfant a besoin de moi. » Et j'imagine qu'il a dû recevoir des centaines, sinon des milliers de coups de téléphone, « mais que fais-tu? Tu ne peux pas abandonner le ministère, tu risques d'encourir peut-être même les foudres de l'Éternel en faisant cela, tu es au sommet de ton art, et c'est vrai, il l'était, des centaines de gens se convertissaient, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. » Mais il l'a fait parce qu'il a placé sa famille
avant.
Il a respecté les priorités de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est le docteur Dobson qui en rend témoignage. Quand il a vu que sa vie était plus importante aux yeux de son papa que le ministère que son papa avait, il a reconsacré sa vie à Jésus. Et de cette reconsécration est né cet homme qui est devenu docteur, puis qui a créé Focus sur la famille, et qui, au travers de ce gigantesque outil, a touché des dizaines et des centaines de milliers de familles dans le monde entier. Donc,
quel bel exemple.
Les mathématiques de Dieu, cet homme touchait des centaines de personnes par semaine, mais en mettant les priorités de Dieu dans le bon sens, au travers de la vie de son fils, il en a touché des centaines de milliers, voire des millions.
Pratiquement, comment en faire? Juste un petit exemple, courtement, pour vous aider à réfléchir à cela. Par exemple, pour notre vie, quand on a été, après la tragédie du tremblement de terre au niveau de Haïti, on nous a demandé si on voulait bien aller apporter de l'aide aux missionnaires et aux pasteurs là-bas. Donc on a pris, si vous voulez, dans notre tête les priorités. Est-ce que le Seigneur est d'accord avec ça? Est-ce que tous les deux, on est d'accord avec ça? Et puis ensuite, on en a parlé avec nos enfants. Et on leur a dit, si c'est un trop gros souci pour vous, si ça vous fait peur pour nous d'y aller, pour n'importe quelle raison, vous préférez qu'on n'y aille pas, on n'ira pas. Quelqu'un d'autre peut y aller. On peut envoyer d'autres conseillers. Aller aider d'autres personnes auraient été qualifiées, peut-être même mieux que nous encore.
Parce que c'était une prise de risque. Nous avons pris le premier avion commercial. c'était encore très risqué à l'époque.
Mais personne ne peut nous remplacer en tant que parents. Donc on leur a demandé de réfléchir, de prier pour ça. Ils sont revenus, ils nous ont donné leur feu vert. Ils croyaient que le Seigneur nous voulait là-bas. Donc on est parti avec leur bénédiction, si vous voulez. Est-ce que ça veut dire que c'est eux qui décident pour notre vie? Non, pas du tout. Juste pour vous donner un petit schéma à nouveau, imaginez un système éducatif dans votre famille. Vous êtes là-haut en tant que mari et femme, vous prenez vos décisions ici, et puis ensuite vous en discutez en tant que papa et maman avec vos enfants. Et vous pouvez interagir à ce niveau-là avec eux.
Tout à fait.
Et c'est, là, ils vont se sentir pris soin d'eux et respectés.
Écoutez,
voilà. Entendu. C'est pas eux qui décident, mais vous, ils ont une voix dans votre famille.
Alors, quelques questions et un petit peu de travail pour vous.
Est-ce qu'en tant que parent, vous êtes une bonne représentation de Dieu pour vos enfants?
Alors, nous savons que nous ne sommes pas parfaits. On n'est pas en train de vous dire que vous devez être parfait, mais... Réfléchissez, comment est-ce que vous transmettez activement votre foi à vos enfants dans la vie quotidienne de votre famille?
Prenez soin d'organiser des temps tout particuliers avec chacun de vos enfants individuellement, parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de vous en tant que papa et maman.
Et on verra plus loin dans combien cela est important d'être ceux qui leur transmettent l'apprentissage de la vie plutôt que de laisser le monde le faire à votre place.
Et puis lisez le passage dans Deutéronome 11, 18 et 19. Et vraiment, demandez à Dieu de vous donner des idées, de vous inspirer pour que vous ayez des moyens très pratiques tout au long de la journée de parler de lui. Et si vous n'avez pas d'enfants, il y a sans doute des enfants dans votre entourage, des enfants à l'église, peut-être que vous êtes moniteur dans des groupes pour les enfants, etc. Priez pour eux, faites partie de ceux qui investissent aussi dans leur vie, parce
Absolument.
Que tout ce que vous pourrez apporter aux enfants sera de toute façon un bonus qui leur fera du bien. Vous pouvez être une représentation de Dieu, même pour les enfants des autres. Ce sont les vôtres, investissez-vous, et si vous n'en avez pas, investissez dans ceux des autres.
Ils ont besoin de modèles, pourquoi ne pourriez-vous pas en être un pour eux? Encore une fois, il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit simplement de démontrer Christ dans les moments faciles comme dans les moments difficiles, dans ce que vous vivez au quotidien.
Dieu bénira votre famille.
Voilà, nous vous disons au revoir. Merci d'avoir été avec nous pour cette session.
À la prochaine fois.
À bientôt.